Donc aujourd'hui, nous vous proposons une discussion sur le thème de l'écoute dans la pratique de l'hypnose d'accompagnement, de l'hypnothérapie, avec Franck Maya, le tireur d'élite, Philippe Miras, arracheur de dents batracien, amphibien, et Valérie Sten, la tourneuse de page. Bienvenue à vous, merci d'être là. Et on commence maintenant. Qu'est-ce que c'est pour vous l'écoute? À quoi ça sert? Pour qui? Qu'est-ce qu'on écoute exactement? Et comment ça se passe dans vos pratiques respectives concrètement? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça représente pour vous l'écoute?
On va démarrer par les anecdotes, si tu veux bien. Mon entrée un peu indirecte dans le monde de l'hypnose, je dis indirect parce que c'est assez indirect, c'est quand j'ai entamé une psychanalyse à 19 ans. Ça va mieux, en bonne partie grâce à la psychanalyse. En termes d'écoute, tout ce que je fais maintenant est influencé par un moment très particulier que j'ai eu avec mon analyste. J'allais pas bien, donc, et à un moment venait l'idée de qu'est-ce qui éventuellement résoudrait mes problèmes et pourrait être fait qui changerait le truc. Et l'image qui m'est venue, ça serait si j'attrapais mes parents par les cheveux et que je leur fracassais le crâne sur le carrelage. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte qu'on pouvait tout exprimer, où tout pouvait être entendu, tout pouvait être admis, compris, ressenti de façon emphatique, avec vraiment empathique, pardon, avec vraiment le sens de ce qu'est l'empathique, sans le jugement. Je sais pas s'il y avait une bienveillance, mais d'un coup, tout était autorisé et uniquement parce que la personne à l'autre bout, non seulement est écouter très attentivement et sans parti pris, avec une acceptation de ce qui était d'une certaine façon moralement inadmissible, mais qui n'était vrai que dans ce moment suspendu de cette séance de 45 minutes. Et ce que j'ai ressenti donc à ce moment-là pour mon analyste, c'est, je sais pas si lui avait lu Rogers, hein, mais c'est l'expression absolue, totale, parfaite d'une posture rogérienne. Et c'est quelque chose que donc j'ai vécu physiquement, hein, à 19 ans et qui ne m'a jamais quitté. Je ne peux pas faire une séance sans, je ne vais pas dire, voir mon analyste, comment il réagissait à ce moment-là. Je ne peux pas faire une séance autrement. Et donc, ça passe forcément par... Si je ne transmets pas au patient avec qui je travaille cette sensation que tout peut être dit, tout peut être entendu, tout peut être admis et compris, pas forcément encouragé, on peut ne pas être d'accord, il y a des choses qui diront pas, ou il y a des séances qui se feront pas de la même façon. Et ça ne peut passer que par une façon d'écouter. Qui n'a rien de technique et qui n'est pas, qui ne se limite pas à soyez bienveillant, blablabla. Non. Il s'est intéressé à moi, pas un jugement de valeur, pas une posture où des choses avaient le droit d'être dites, t'étais bien, t'es mal. C'est même pas qu'il n'en avait rien à carrer, c'était pas le sujet. Voilà.
Je peux
Rien de
rebondir.
technique, mais quand même quelque chose de concret, quoi. À toi, Franck.
Oui, en fait, je voulais rebondir parce que moi, ce soir, je voulais vous parler de Rogers aussi, donc forcément, forcément. Et ce que tu décris là, Philippe, pour moi, vraiment, c'est central dans les accompagnements. Et chez Rogers, son grand sujet, c'est l'approche centrée sur la personne. Et il y a trois grandes caractéristiques là-dedans. Et là, on est en train de parler de la deuxième, qui est l'accueil positif inconditionnel. En fait, si on c'est les mots standards, accueil positif inconditionnel, hein. Alors là-dedans, il y a pas d'approbation ou de désapprobation, il y a ni l'un ni l'autre en fait. C'est validé de fait, quoi. C'est-à-dire que tu dois pas, t'es pas indifférent. T'es au contraire, t'es complètement sensible si tu veux. Mais il y a quelque chose où tout est acceptable à ce moment-là, voilà. Il n'y a pas de... Tout est intéressant, en tout cas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas
Il n'y
d'évaluation.
a pas de bien, il n'y a pas de mal.
C'est ça. C'est...
Et si,
Ouais, pas
je vais conclure,
d'approbation.
mais je vais te rendre la balle tout de suite.
Vas-y, vas-y.
Si le patient ne perçoit pas la façon dont il est, je vais dire, entendu plus qu'écouté, parce que là, c'est entendu, rien n'existe. Quelque chose doit être perçu dans la relation entre l'opérateur et le sujet sur ce côté, c'est un endroit particulier, c'est un moment particulier où tout peut être dit, tout peut être entendu, tout peut être accepté. Il n'y aura pas de jugement. Ça sera ni mal ni bien. Ça sera quelque chose qu'à ce moment-là, vous aviez besoin d'exprimer.
Et moi, je traduis ça avec mes mots, en fait. Là, c'était plutôt le côté Rogers, mais par offrir de l'attention. Écouter, c'est offrir de l'attention. Et de l'attention, c'est juste être attentif à tout, c'est-à-dire noter. C'est être conscient d'eux. Il n'y a pas d'interprétation. Mais pour ça, il faut être totalement disponible. La disponibilité, elle est énorme. Et en fait, cette disponibilité-là, elle est très rare dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un, s'il n'y a pas beaucoup de moments où tu as quelqu'un qui est complètement là pour toi et qui va s'intéresser, qui va offrir au moins une attention complète à tout ce qui s'exprime de toi. Alors, il y a nos séances d'accompagnement. Moi, je connais un autre lieu parce que ma femme est coiffeuse. Ça se voit d'ailleurs, mais et effectivement, il se passe les mêmes choses. C'est-à-dire que à un moment donné, ils ont quelqu'un qui est là uniquement pour eux. Alors évidemment, c'est pas du tout le même cadre, mais quand même, ça a un effet sur les gens qu'on voit très bien, parce qu'ils commencent à raconter leur vie, quoi. Ils racontent tout, quoi. Il n'y a plus de filtre, tout ça, juste parce que ils ont quelqu'un qui leur offre de l'attention pendant un moment donné. Et y a des confidences incroyables, hein, donc quand ça va trop loin, quand les gens pleurent, elles donnent ma carte et puis ils viennent me voir. Mais c'est vraiment le truc de j'offre une attention totale. Pour moi, c'est ça.
Ok, merci Franck.
Moi,
Valérie,
je me pose une
qu'est-ce que tu
question ouais, par
en
rapport à la
penses?
posture, en fait, à la vraiment ben, déjà, qu'est-ce qui fait que le client va se rendre compte qu'il y a vraiment cette écoute pleine, entière, totalement dénuée de jugement? Qu'est-ce qui va faire que cette confiance, elle se met en place? J'avais une question pour Philippe. Quand tu as fait ta psychanalyse, est-ce que c'était traditionnel, c'est-à-dire que tu avais une posture dans un divan où ton psychanalyste était, est-ce qu'il te regardait? Est-ce qu'il y avait un échange de regard? Est-ce qu'il était... Parce que, tu vois, par rapport à la coiffeuse aussi, je me dis, la coiffeuse, elle est aussi dans notre dos. Est-ce que cette posture, cette position, elle a une importance? Alors, ce qu'il y a d'amusant, si tu veux, c'est qu'il y avait des choses qui étaient à la limite du caricatural. On est en 76, hein, à ce moment-là. D'accord? Je rentre en analyse après l'avoir vu dans un cadre un peu différent pendant 3 mois. Juste avant, j'étais dans une phase suicidaire vraie, hein, pas juste, oui, blablabla, ça va pas. Il a un collier de Barles, il a une espèce de petite statuette de Freud en plâtre dans un recoin de son bureau. Il y a effectivement un divan, il est dans mon dos, très légèrement décalé à droite. Il écrit tout le temps avec une espèce d'écriture, on dirait des petites fourmis, tellement c'est petit. Il a jamais accepté de me fournir mes notes. Je suis arrivé à marchander en lui disant... Si je reviens dans 10 ans, je suis revenu dans 10 ans, il n'exerçait plus, donc j'ai jamais pu avoir accès à 3 ans de notes 2 fois par semaine de 45 minutes. Par contre, à partir du moment où je suis entré en analyse, je me suis refusé de lire quoi que ce soit sur la psychanalyse. Donc moi, je ne me suis pas lié à un cadre théorique pour éviter de m'en rajouter une couche. Alors, au bout de, je pense que c'est 6 mois grand maximum. Mon avis sur la psychanalyse est que ça n'existait que pendant 45 minutes dans ce cadre-là, que toute la théorie, j'en avais rien à carrer. C'était vraiment un travail sur moi-même. J'attendais plus de scènes de révélation. J'avais l'impression que c'était des couches de papier peint qui tombaient à certains endroits et que derrière, il y avait d'autres couches. J'ai appris assez rapidement que ça pouvait pas avoir de vraie fin et que ça prendrait du temps. Je crois que c'est Je crois que c'est le non-verbal, même si je ne sais pas si je me suis tourné vers lui pour voir l'effet que ça lui faisait ou si c'était en fin de séance, je le voyais quand même. J'étais un peu obligé de me tourner vers lui. Il disait rien la plupart du temps. J'espérais qu'il m'explique un truc et ça finissait par un machin dont il parlait de façon très floue. Je laisse cela à votre réflexion. C'était la phrase titre. Je crois que à certains moments, je l'ai senti ému, donc touché par ce qui se passait. Il a été toujours d'une certaine façon précautionneux avec moi. Il y a une fois où il a arrêté la séance avant la fin des 45 minutes parce que ça allait trop vite et trop loin. Et ça aussi, c'est quelque chose que je garde en tête. Et c'est vraiment une histoire de non-verbal. On peut raconter ce qu'on veut aux gens. À ces niveaux-là de charge et d'émotion, c'est le non-verbal qui signe la façon dont on a été écouté et entendu. C'est, même s'il y a des mots qui viennent, ça va être dans la tonalité du mot ou l'émotion qui va avec le mot ou la prudence pour le dire ou des trucs comme ça. Je crois que c'est vraiment une histoire de non-verbal. Le truc qui fait qu'on sait que personne ne peut pipoter à ce point-là. Et en général, la réaction est tellement mesurée. On bouge très peu. On voudrait pas que quoi que ce soit vacille ou soit mal interprété. On espère en tant qu'opérateur, j'ai quand même eu quelques séances où c'était moi qui étais de l'autre côté, où il y avait un peu du lourd. On espère qu'il y a à la fois ce côté, je vous ai entendu, je suis là, je suis votre garde-fou. Et je ne chercherai pas à en savoir plus si vous n'êtes pas prêt à en livrer plus. Alors maintenant, est-ce que ce que je suis maintenant est marqué par les 3 ans, je ne vais pas dire de psychanalyse, parce que c'était le cas dans la psychanalyse, les 3 ans que j'ai vécu avec ce type-là, oui. Est-ce que si ça s'était passé autrement, je serais différent? Sûrement, je ne sais pas comment je serais. Je ne sais pas si ce côté extrêmement rogérien, parce que je m'étais pas interdit de lire autre chose, pour tout ce qui était non-analyse, ça, je m'étais pas interdit de lire quoi que ce soit. Et Roger, c'est, il n'y avait pas grand-chose à tant que ça à lire, hein. Il y avait des tarés, sur la psychanalyse avec les explications en marge en grec classique. Donc,
Il faudrait faire une pause pour dire qui est Rogers ou qui était Rogers, c'est quoi le rapport et
ben, je vais laisser ça
Non,
à
non, vas-y,
Calais. Voilà.
vas-y,
Non, non, non,
vas-y.
non.
Moi, ce que je connais de Roger, c'est vraiment c'est l'approche centrée sur la personne. Roger, c'est un Américain. Et là, ce que tu disais, parce que Roger, il va apparaître à travers ce qu'on est en train de dire là, parce que je voulais compléter avec du Roger ce que tu viens de dire là. La question au départ, c'était comment on fait pour faire sentir à l'autre qu'il y a un accueil positif inconditionnel? Et en fait, là, ce que tu as dit par le non-verbal et tout ça, c'est du Roger pur dans l'autre élément de son approche qui est la congruence, ce qu'il appelle lui la congruence. Et Roger, c'était essentiellement ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour lui, alors la définition que j'avais notée là, c'était l'accord entre l'expérience, la conscience et la communication. Bon, c'est très 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 abstrait, mais en gros, faut pas pipoter. C'est-à-dire, on doit absolument être attentif à la fois à ce qui se passe chez l'autre, mais aussi à ce qui se passe chez soi. C'est-à-dire que celui qui accompagne, il doit alors. L'idée, c'est d'être vrai. Alors, ça n'a pas été évident d'illustrer vraiment les mots précisément, mais c'est du courage d'être soi. Et le courage d'être soi, c'est de noter aussi sans jugement ce qui se passe en nous dans la relation. On a le droit d'être ému, on a le droit d'être naturel. Il doit rien y avoir de caché et il doit rien y avoir d'imposé. C'est-à-dire, on ne doit pas s'imposer non plus presque une posture. On doit faire avec ce qu'on est et on doit l'accepter complètement. Ça veut dire qu'il y a une transparence en fait, et tu dois même communiquer à l'autre cette transparence. Il faut qu'il sente que ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est pareil. Il n'y a pas des tensions là-dedans. Ça va très loin chez Rogers parce que Rogers, ce qu'il nous dit, c'est si dans la relation il y a des choses par exemple qui nous dérangent, qu'on a un sentiment persistant dans la relation. Alors, je vais donner un exemple un peu violent. Par exemple, si on a l'impression que la personne qui est en face de nous ment, on pourrait avoir l'impression que la personne qu'en face de nous ment, et que ça revient plusieurs fois comme ça, et qu'on le ressent comme quelque chose en nous, et on ne sait pas pourquoi, qu'on n'a pas d'argument, il faut l'inclure dans la séance. C'est-à-dire que les sentiments persistants de l'accompagnant, ils doivent être exprimés et introduits dans la séance. On est loin de la psychanalyse, hein, parce que là, on communique vraiment, et on communique avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on ressent, avec toute la prudence que ça impose, hein, parce que peut-être que ce sentiment-là, il vient de nous. Il vient du fait que ce qui nous est raconté là, ça nous fait penser à un épisode de notre vie, hein. Mais peut-être aussi que, en fait, dire ça à la personne, ça va tout dénouer, quoi. Ça va l'amener en face de là où il y a besoin d'aller. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de totale congruence, transparence, et il y a presque rien à faire à part noter et observer ce qui se joue en nous. Toutefois, il y a quand même cette idée aussi de réserve. C'est-à-dire qu'il y a des fois, faut quand même garder le cadre et il y a une certaine réserve sur certaines choses, notamment quand on sent que les réactions qui sont en nous, elles viennent de nous et pas de ce qui se joue dans la séance quand même. Mais quand même, il y a le courage. Parce que c'est vraiment du courage parfois de dire que on n'est pas à l'aise, de dire que on ne sait pas trop comment prendre le problème, etc. En fait, chez Rogers, la transparence, elle est totale et absolue. Donc, si on a l'accueil positif inconditionnel, si on a la congruence aussi d'être nous, ça veut dire qu'en plus, on va pas faire les mêmes séances parce qu'on n'est pas tous les mêmes, hein. Et on doit travailler avec l'instrument qu'on est. Au-delà de ça, dans ce qu'a évoqué Philippe, il y avait le troisième élément aussi, si on veut parler de ce qu'est Rogers, c'est la compréhension empathique, où là, effectivement, ça passe plus par le non-verbal, par les mots, tout ça. Et je vais revenir aussi là-dessus parce que l'empathie, si on veut vraiment pouvoir entrer en relation avec quelqu'un, c'est pas la sympathie, c'est-à-dire c'est pas vivre l'émotion de l'autre. C'est une façon de sentir le monde du client comme si on était lui, mais tout en sachant qu'on n'est pas lui. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette distance parce que sinon on va pleurer avec tout le monde, on fait pas la journée. On fait ça avec des copains, quoi. Mais c'est vraiment de la compréhension. Et c'est vrai que ça passe aussi par toutes ces résonances qu'on peut avoir. Ça nécessite aussi un peu du courage, parce que si vous devez rentrer dans le monde du client avec ce que, par exemple, l'exemple qu'a sorti Philippe, c'est un peu chaud, quoi, hein. Envie de frapper, envie de, voilà, si votre client il est raciste, si je sais pas quoi, tout ce qui peut se passer, quoi, hein. Il faut rentrer dans cette compréhension empathique-là et faire un peu comme si on était à sa place et avec les deux côtés, parce qu'on ne doit pas perdre aussi qu'on n'est pas lui, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je connais en gros de Rogers. Je sais pas si ça répond un peu aux interrogations qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Philippe, si tu veux compléter.
J'aimerais qu'on passe la parole à Valérie, messieurs, qui n'a rien
Oui.
dit, qui n'a rien dit jusque-là. Qu'on essaie d'être un peu équitable dans la parole, s'il vous plaît.
Je pense que tu as bien fait de demander des précisions sur Rogers, parce que moi, personnellement, j'étais formée à Lyon 2 et c'est très freudien. Et malgré 5 ans d'études, j'avais jamais entendu parler de Rogers. C'est quand même un manque en France.
Ah, c'est
Donc,
fou.
voilà, c'est fou. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Franck, sur la congruence. Freud, lui, va plutôt parler de neutralité bienveillante. Et moi, pour moi, on est loin de cette idée de congruence, quoi. Parce que la neutralité, ça va être justement jouer le masque, hein. Et pour moi, il risque d'y avoir des dissonances entre ce qu'on ressent à l'intérieur, le fait de lutter pour pas le montrer. On est loin d'être vrai de la pensée rogerienne, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est le contraire même.
Je crois qu'il y a des moments dans une séance où on a besoin de savoir qu'on est entendu. Et l'absolue neutralité, c'est comme un mur sur lequel il n'y a pas de rebond. Alors ça ne veut pas dire que quand on commence à balancer du lourd, il faut qu'on pleure, faut qu'on se torde les doigts, etc. La posture rogerienne reste active. Reste active. Hein. Il y a une écoute qui est pas seulement réflexive, il y a une écoute qui est active. avec plus de neutralité qu'on y met en général dans l'hypnose, mais cette sensation de lien interpersonnel, par définition, est bien plus présente chez Rogers, même s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'action faite à la place d'eux, qui a en principe en psychanalyse. Il n'y a pas non plus cet énorme cadre bon, qui s'effondre sur lui-même maintenant, de toutes les théories analytiques qui impliquaient, parce qu'elles étaient acceptées en amont, qu'il y ait des projections et il n'y a rien à faire de la part de l'opérateur qui voyait là c'est un Oedipe, là c'est machin, etc. La cabane est tombée sur le chien, donc voilà, c'est un des avantages de l'hypnose, c'est que on peut faire qu'il n'y ait pas de projection de l'opérateur, ou la ramener à ce qu'un être humain est capable de faire comme absence de projection. Et ça passe justement, c'est ce que disait Franck, par un décalage entre l'empathie et la sympathie. On peut être Je peux être triste pour un patient, pour ce qui lui arrive. Ça ne doit pas me faire quitter ma position d'opérateur. La plus belle séance que je ferai de toute façon, de toute ma vie, parce que je pensais que jamais je ferais un truc comme ça, que c'était juste pour que ça existait dans les livres, chez Erickson, un machin comme ça. C'est il y a 2 ans, je donnais une formation avec Jean Dupré. Jean, c'est le jour de Jean, et moi je suis dans la salle. Jean demande à bon, qui veut venir pour une séance. Il y a une personne qui se lève, s'installe auprès de Jean. Jean lui demande. Ça va, sur quoi voudrais-tu travailler? Et la personne, à cette seconde-là, s'effondre en larmes, complètement, en expliquant, je vais essayer d'anonymiser tout ça au maximum, mais les 30 personnes qui étaient dans la salle sauront, en essayant d'expliquer qu'elle a hyper bien encaissé, une véritable catastrophe, et que là, il y a 2 mois qui sont en suspens, et que pendant ces 2 mois-là, par contre, elle est en train de s'effondrer. Et toute la salle a un énorme mouvement de sympathie. On est 30, on est 30 formés, on est 30 à être supposés être des opérateurs et donc des thérapeutes. Et il y en a 29 qui basculent vers un truc de sympathie totale. Genre, c'est parce que tu es humain, c'est normal avec ce qui t'arrive, etc. Donc, à remettre des pièces dans le truc. Au moment où je me rends compte de cette espèce de c'est comme un courant qui passe à côté de moi. Je me dis, mais personne n'est dans la posture juste par rapport à ça. On est juste en train d'essayer de soigner un bobo au genou, un gosse. Et je fais un parallèle avec un truc que j'avais lu, je sais pas, c'est un bouquin que j'ai lu à répétition à partir de mes 10 ans. Et je m'entends commencer à dire un truc du style, ça me rappelle une histoire. Et je raccorde ce qui se passait pour cette femme à un truc que j'avais lu dans un bouquin à répétition quand j'avais 15 ans. Donc ça dure 3 à 4 minutes. Pendant les 2 dernières minutes, je me dis, il me faudrait quand même une chute pour ça. C'est vraiment l'histoire que j'ai lue. Hein. J'ai rien inventé, sauf que je cherchais une chute dont je ne suis pas sûr qu'elle existe dans le bouquin. Je place la chute et je me tais. Et donc la salle se calme. La personne qui est avec Jean respire un petit peu comme ça. Jean se tourne vers elle et lui dit, est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant la séance? Et la personne se tourne vers lui et lui dit, non, c'est pas la peine. Mon problème est réglé. Elle se lève, elle est
Jean
partie.
Dupré, excuse-moi, Jean Dupré, il a dit une fois chez Anna Gallais dans un podcast qu'on devrait s'appeler des hypnothérapeutes parce que les gens viennent nous voir pour des besoins affectifs. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça rejoint l'idée d'offrir de l'attention, par exemple?
Oui, parce que si c'est pas les choses qui arrivent aux gens, que ce soit à moi, à toi, à nous, à n'importe qui qu'on va croiser, massivement, ça va être leur façon de l'interpréter, de le câbler et de l'affronter ultérieurement parce que ça sera réactivé. Je suis désolé pour l'exemple. Tout le monde n'a pas traversé la Shoah de la même façon. Tout le monde n'a pas traversé le
Moi, ça
Vietnam
s'est bien passé, hein.
etc., etc. Donc, c'est pas, on peut pas changer le factuel. On peut pas changer le fait que j'ai perdu mon fils brûlé unique, brûlé dans sa voiture, ce genre de truc. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à cette brave dame? On peut pas le changer, ça. On peut essayer de voir avec la personne si on peut travailler sur l'acceptation dans une certaine mesure ou l'interprétation différente, quitte à jouer sur des gros boutons, qu'est-ce qu'il aurait voulu, votre fils? Est-ce que c'est ça qu'il aurait voulu? Mais sur le factuel, on peut rien. Donc on ne peut travailler que sur des interprétations et les émotions qui peuvent être horribles, paralysantes, catastrophistes. Ou leur traduction, voilà. Je bégaye parce que il s'est passé je ne sais quoi, alors que dans la même situation, personne d'autre ne bégayerait. On ne travaille que sur ces émotions. Pas le factuel, à mon sens.
Valérie, comment tu te positionnes entre Freud et Rogers alors, aujourd'hui? Pour ou contre? Ouais.
Alors, bah justement, je pense que c'est pour ça
Est-ce
que
que tu as gardé quelque chose de l'école freudienne?
pas, absolument pas. C'est pour moi l'anti. C'est justement, je vais m'en servir comme repère anti tout ce que je veux être, quoi. C'est pour ça, je pense, que j'ai quitté Lyon 2 et que ça me correspondait pas, parce que en plus c'est très dogmatique. C'est très, bon, sans parler du côté misogyne, hystérie et compagnie, qui ne me correspond pas du tout du point de vue de mes valeurs. Mais pour moi, justement, cette histoire de neutralité bienveillante, elle me semble déjà artificielle, inatteignable, et on est à mille lieues du lien humain et de ce que c'est que l'empathie et tout ce qui est intangible dont Philippe parlait tout à l'heure. Les ressentis sur lesquels on ne peut pas mettre de mots, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire.
Dans Rogers, il y a l'égalité vécue dans la relation, c'est-à-dire que dans Rogers, il y a l'accompagnant est construit de la même étoffe que que l'accompagné, quoi. Donc on est effectivement, on peut pas faire, on triche si on veut être neutre, puisqu'on n'est pas neutre, donc on est obligé de tricher. Si on veut pas tricher et si on veut atteindre une forme de neutralité, on est bien obligé de travailler avec ce qui est, c'est-à-dire quand on ressent une émotion parce qu'il se passe quelque chose dans la relation avec le client, on la ressent. Si on fait comme si on la ressentait pas, quelque part, on va perdre la congruence et la personne va le ressentir parce qu'on va tricher en fait. La seule façon de tricher, c'est de se cacher. Donc effectivement, on met la personne sur un canapé, on se met derrière, on essaie de pas apparaître. Enfin bon. Qu'on trouve des biais en fait pour pouvoir très bien tricher, pour pouvoir faire comme si on n'était pas humain en fait. Bon là, si on crée vraiment la relation, on doit travailler avec ce qu'on est et ça nous permet à mon avis d'atteindre une plus vraie neutralité parce que on va faire avec la vérité de nos émotions. Elle est là, alors pas justement pour pouvoir même travailler avec et ça sous-entend aussi dans l'approche de Rogers qu'on doit toujours nous être en travail continu sur nous-mêmes pour justement avoir un minimum d'impact et pouvoir accueillir plus de choses sans que ça nous mette en vrac nous-mêmes quoi parce que sinon on va plutôt bien et il y a toujours du travail hein, pour tout le monde je pense mais en tout cas sur les choses les plus qui nous touchent le plus on va pouvoir effectivement accueillir plus de choses et être dans une vraie neutralité enfin en tout cas une qui sera pas surjouée qui sera pas fausse qui sera congruente en fait parce qu'on non seulement on comprendra pourquoi on le fait parce qu'on va pouvoir mieux accompagner mais en plus on va pas seulement le comprendre on va le ressentir concrètement dans nos tripes en fait donc ça c'est important d'être toujours nous là-dessus et puis surtout c'est comme c'est pas possible parce qu'on peut pas être parfait à moins que nous soyons tous des saints mais ça m'étonnerait il y a des moments où il y a des gens qu'on ne peut pas accompagner et si on est dans cette approche-là on va le détecter et on va dire non, si la personne elle nous raconte notre histoire et ce qui nous a le plus mis en vrac, il faut l'envoyer à un collègue, quoi. Ou alors, c'est qu'on a vraiment bien guéri, quoi, et que ça va très bien, mais c'est pas toujours possible, quoi. Donc on est très très loin, je pense, effectivement, de Freud et de la psychanalyse.
Ça veut dire que l'écoute, elle se fait de ce qui vient de l'extérieur et de ce qui résonne en nous, en fait. C'est une
Oui.
écoute qui est
En
oreille
même temps.
interne et oreille externe.
Exactement, en même temps.
Franck, une
Oui.
fois, Franck, une fois, tu as dit, quand tu héberges un ami, tu lui prépares une chambre et pour accueillir l'autre, il faut lui faire de la place. Tu as parlé de disponibilité. Qu'est-ce que ça change dans la pratique de l'hypnose si on a des super techniques, si on est un hypnotiseur très puissant, très intelligent, etc. Finalement, pourquoi on parle de ça ce soir?
Alors ça dépend, je sais pas ce que c'est un hypnotiseur très puissant avec beaucoup de techniques, mais c'est Besmer peut-être, un truc comme ça.
Bonne, monsieur Mesmer.
C'est plutôt cette caricature-là. Pas terrible pour faire de la thérapie, quoi.
Ah bon?
Pas terrible, quoi. Enfin, à mon avis, ça respecte pas grand-chose pour si on veut vraiment s'intéresser à la personne, quoi. Si on veut s'intéresser à, c'est pas son sujet, mais Mesmer, de s'intéresser à la personne, quoi. Son sujet, c'est de faire un effet de scène. C'est de faire quelque chose, voilà. Et je pense que la thérapie, c'est complètement le contraire. Je pense que ce qu'on va avoir de choses très puissantes, ça va faire des choses qui ne peuvent pas être durables ou qui vont pas créer d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être que pendant un quart d'heure, pendant la séance, la personne va être très bien. Et à mon avis, quand elle va repartir, il va se passer d'autres choses, quoi. Si ça respecte pas tout, si c'est pas écologique émotionnellement, si ça crée pas des équilibres et que tout est pas considéré, ça va être un peu compliqué. Alors parfois, il peut y avoir des petites interventions. Moi, je suis plutôt partisan d'intervenir le moins possible. Et d'ailleurs, tiens, ça m'amène à un sujet qui va bien avec le sujet du jour, c'est la suggestion.
Qu'est-ce que c'est la suggestion
La suggestion.
dans ce contexte-là?
Bah, la suggestion, c'est effectivement, en hypnose en tout cas, c'est ce qu'on appelle des techniques, pour moi c'est une technique évidemment de manipulation, hein, la suggestion, c'est je veux obtenir un résultat et je veux que la
Je veux.
personne...
C'est
Ouais, c'est
moi, je
ça.
veux.
Voilà, la suggestion, c'est je veux... Alors, ça peut être je veux parce que la personne veut. Hein. Je veux arrêter de fumer, envoyer des suggestions pour arrêter de fumer, ça va très bien, hein. C'est une manipulation positive. Hein. Par exemple, je veux arrêter de fumer, je veux qu'on me dégoûte de la cigarette. Bon, là, on voit bien que la personne va pas pouvoir le faire avec la volonté, donc il va falloir faire un travail de suggestion pour l'amener à un état où elle va trouver ça mauvais quand elle va fumer. Bon, ça, pour moi, c'est très utile en hypnose de spectacle, évidemment, parce que là, on va pouvoir faire tous les effets qu'on veut. En thérapie, il faut vraiment se méfier de ça, quoi. Évidemment, on voit bien que là, ça peut ne rien respecter du tout. Qu'est-ce que ça respecte du besoin? À quoi ça servait de fumer? Est-ce que c'était pour se détendre, pour faire une pause, pour je sais pas quoi? Et si maintenant je peux plus fumer et que c'est mauvais, ben je vais plus faire de pause. Je vais travailler comme un acharné. Je vais devenir fou. Je sais pas. Mais en tout cas, je caricature beaucoup. Mais pour moi, l'hypnose
Pas
d'accompagnement,
tant que ça. Hein.
c'est pas la science de la suggestion. Parce qu'il y a pas mal de gens qui décrivent un peu l'hypnose comme la science de la suggestion. Pour moi, il y a une suggestion qui est intéressante en hypnose d'accompagnement, c'est rentrer dans un état d'hypnose. Pour moi, c'est la seule suggestion qui m'intéresse vraiment. Parce que je sais qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à faire du Rogers en transe. Et que là, on va avoir une plus grande mobilité de ce qui peut se réorganiser et utiliser ce que Rogers appelait la tendance actualisante de la personne. C'est qu'on est dit système naturel de résolution de problèmes, hein, ça c'est plus du Rossi. Et effectivement, ce mécanisme-là qui va respecter bah, la façon qu'aura la personne de trouver sa solution. Ça se fait en transe. Et donc la suggestion utile pour moi, c'est rentrer dans un état d'hypnose, peut-être s'amuser à faire quelques phénomènes hypnotiques pour être sûr qu'on est en état d'hypnose et pour que même la personne, elle arrive à s'en convaincre elle-même aussi. Ça peut faire du bien aussi parce que ça va augmenter encore ça va nous faire de l'approfondissement. Mais les autres suggestions, Si c'est pour aider les gens, je suis plutôt très économe, quoi. J'en évite un maximum, quoi. Peut-être mettre du mouvement, c'est-à-dire donner une direction. Il y a un objectif, on va essayer de faire la direction, mettre du mouvement. Mais après, pour le reste, c'est pas à nous de trouver de quelle façon on doit résoudre le problème de la personne. Et je sais qu'il y a tellement de gens, je vois sur les, je sais pas, les groupes, par exemple, qui se pose des questions de stratégie incroyables, comme s'il fallait qu'il soit la personne qui va résoudre le problème de l'autre, hein, qui va trouver sa façon d'aller mieux, qui va trouver comment l'attaquer, tout ça. Je pense qu'il faut beaucoup se méfier de ça. On peut essayer des petites choses, voir ce qui prend, etc. Mais quand même, c'est plus de l'émergence, quoi. C'est plus quelque chose qui doit venir du sujet lui-même. Et bah, l'écoute, ça permet ça, justement, parce que ça va ramener les gens vers une plus grande écoute d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que s'il y a aussi une suggestion importante, à part rentrer dans un état d'hypnose, c'est que si on fait tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire si on a un accueil positif inconditionnel de l'autre, si on est congruent, si on a une compréhension empathique de ce qui est en train de se jouer, si nous on le fait pour la personne, elle va le faire pour elle-même. Et à mon avis, ça, c'est une suggestion puissante. Parce que pas sûr qu'elle le ferait toute seule. Mais si on le fait pour elle, c'est comme si on la rebranchait sur elle-même avec cette façon de s'aborder soi-même comme ça. S apostrophe. Ok. Je sais pas si ça vous parle, ça.
Le thérapeute, la thérapeute serait un miroir, un écho, une espèce de représentation de la personne elle-même, alors.
Une surface projective, en tout cas.
Une surface projective. D'accord.
Quelque chose comme ça. On fait de la réverbération. Mais ça permet à la personne de se reconnecter à elle-même différemment. De faire une autre expérience d'elle-même. Et surtout de la mettre en mouvement. Et après, c'est sa propre tendance actualisante qui va résoudre.
Alors, puisqu'on est juste dans cette zone-là, il y a quelque chose qui est. Je sais pas comment on peut travailler en tant qu'opérateur là-dessus, mais le fait que, en tant qu'opérateur, on accorde à notre sujet la confiance comme quoi il est capable de changer. On reste dans ce côté, je suis une surface projective, mais quelle forme a le miroir?
C'est ça.
C'est énorme, y compris en termes en termes de suggestions. Il y a un papier extraordinaire d'Erickson parmi des litres, où il avait sélectionné des patients hyper suggestibles, mais alors le top niveau de l'hyper suggestible, et il avait séparé ses étudiants en deux groupes, et il les a fait travailler avec les mêmes sujets. Un en leur disant vous pouvez y aller avec eux, tout marche, et deuxième groupe, vous pouvez y aller, tout marche, mais pas les anesthésies. Et à partir du moment où les étudiants étaient persuadés qu'avec les anesthésies, ça coincerait, bien qu'ayant validé que tout marchait, le taux de succès avec les anesthésies, effectivement, s'effondrait complètement. Donc, au-delà de l'écoute, qui est, disons, un des piliers de la posture de l'opérateur, l'assurance interne de l'opérateur que nos patients sont aptes et capables de changer, là encore, on est dans un non-verbal. Alors, je ne sais pas ce qu'a pu écrire là-dessus Rogers, parce que les papiers qui reviennent là-dessus sont en général des papiers de Rosenthal, hein, le gars de l'effet Pygmalion. Ce que vous croyez de vos sujets aura tendance à se produire. En bien comme en mal. Sauf que là, on reçoit des gens qui vont nous voir avec une idée maîtresse, c'est faites pour moi ce dont je me crois incapable. D'arrêter de fumer, de manger des Oreos, peu importe. Donc, si il n'y a pas ce renvoi comme quoi, oui, vous en êtes capable. Bon, vous savez peut-être pas comment, on n'a pas encore trouvé comment, le pourquoi du machin, etc. Mais s'il n'y a pas ce renvoi, c'est comme l'apprentissage parent-enfant. T'es nul, tu seras jamais bon en maths. Voilà, les études, c'est pas fait pour toi, tu sais. Voilà. Et je sais pas très bien comment on peut travailler sur soi en tant qu'opérateur pour
Pour moi,
renvoyer cette.
la congruence fait ça. La congruence fait ça. Parce que on
J'ai pas
voit que
d'idée, en fait.
tu ne triches pas. Tu es confiant avec tout ce qui émerge. Tout est OK, en fait. Tout est OK. Tout est intéressant. Il n'y a pas d'évaluation. C'est-à-dire, c'est ni bien ni mal, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, l'accueil positif inconditionnel et la congruence. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'on a une certitude absolue qui ne doit pas être jouée, quoi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire comme si on pensait que l'autre allait y arriver avec des doutes derrière. C'est qu'on doit vraiment, vraiment le croire. Et c'est vrai que c'est difficile de croire à quelque chose quand on ne le croit pas. Donc, pour un débutant, c'est compliqué. Parce que le débutant, il n'a rien pour forger sa propre confiance tant qu'il n'y a pas eu quelques petites choses un peu rassurantes, quoi. Je pense que c'est ça, c'est une des difficultés. Donc, à mon avis, ce qui fait ça,
Déjà, quand il va arriver à croire qu'il peut faire rentrer la personne qui vient le voir en hypnose, ce serait déjà un bon
déjà,
début.
ça aiderait beaucoup. Mais bah, je pense que c'est l'expérience qui fait ça. Hein. C'est l'expérience, parce qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, la confiance, elle se bâtit sur l'historique de ce qui a déjà été fait, quoi. À mon avis, c'est beaucoup, beaucoup ça. Donc, il faut en faire plein, en fait. Il faut essayer, il faut tester, voilà, il faut y aller, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je me suis posé des questions sur comment on pouvait travailler sur les convictions internes des stagiaires et j'ai jamais eu de bonne réponse à part sortez, faites-le, des fois ça va marcher, des fois pas. Filmez-vous, regardez ce que vous avez fait en vidéo, vous apprendrez énormément en vous voyant en vidéo. Mais je crois pas qu'il y ait autre chose. Ça
Le
m'arrangerait.
niveau de cette croyance est d'une puissance phénoménale. C'est-à-dire que si cette croyance, elle arrive à une sorte de, j'utilise un mot, de foi,
Oui.
c'est ça. C'est qu'il faut que ce soit à ce niveau-là. Si tu as vraiment foi dans l'idée que la personne a toutes les ressources pour y arriver, bon, bah, ça, c'est un des principes ericksoniens de base, hein, de base. Si
Il
vraiment
y a
tu
une
crois.
chance du débutant pour les praticiens en hypnose, hein. Souvent, en sortant de formation, tu es convaincu, tu fais un peu des miracles, quoi. Enfin, c'est ça existe, quoi. Ça
C'est
existe.
une naïveté heureuse. C'est
Oui, il y a ça et du courage de crâne.
ça va avec.
Du courage de crâne, la participation des autres stagiaires, tout intervient. Mais ça veut pas dire que c'est inefficace. Hein. Ce sont des formes de placebo sociaux et les placebos, au moins jusqu'à un certain point, ce sont de vrais médicaments. Au moins jusqu'à un certain point. Sur cette histoire de foi. Il y a une phrase de Bergson qui est extraordinaire. Il l'a pas dite là-dessus, hein. Mais il dit que on dit que la foi déplace les montagnes, et il ajoute que c'est pas tout à fait vrai. C'est pour le véritable croyant, la montagne n'existe pas. Voilà, vous
Alors,
pouvez dire ça dans les dîners, jeunes gens.
je vais te dire comment je fais moi. Quand je suis pas sûr d'un truc, mais que j'aimerais bien le croire, parce que ça m'arrangerait, quoi. Je fais comme si. Faut bien faire comme si, mais vraiment bien. Faut faire comme si on croyait absolument que. Mais comme tu sais que tu fais comme si, ça marche pas. Eh ben, il faut faire comme si tu savais pas que tu faisais comme si. Et si tu fais tout ça en même temps, ça marche.
J'ai l'impression d'entendre Jenkins sur l'Automatic Imagination Model.
C'est ça ressemble à ça.
Ça paraît extrêmement, extrêmement simple tout ça. Il suffit d'eux. Est-ce
Mais oui, mais
que vous...
deux fois qu'ils sont enchâssés.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que les stratégies de questionnement, de détermination d'objectifs, la structuration des entretiens préalables est antinomique avec cette notion d'écoute. Valérie, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, moi je pense que oui, parce que si tu structures quelque chose avant, tu n'es plus vraiment dans l'écoute. Parce que tu vas rester collé à ton questionnaire et tu vas pas être dans. Enfin, pour moi, c'est évolutif en fait. Tu peux avoir des questions de base forcément pour te guider, Mais si tu t'es dans une trame, tu n'es pas dans l'écoute de la personne, enfin selon moi.
Alors, comment on trouve l'équilibre?
Nose Navigation System.
C'est personnel en plus, je pense.
Alors, pour compléter ce que vient de dire Valérie, je crois que quand les patients arrivent, ils s'attendent quand même à certaines questions qu'ont pas forcément qu'il faut poser. C'est depuis quand, pourquoi, comment, enfin, voilà. Mais après, ça n'empêche pas l'écoute, mais je vais pas parler de détermination d'objectif parce que l'objectif. En général, l'objectif primaire, il nous est livré brut de décoffrage. Il y a peut-être une deuxième couche, mais l'objet d'une première consulte, c'est vous venez pour travailler sur ça, on va travailler sur ça. Après, des systèmes d'écoute thérapeutique, comme l'entretien motivationnel, c'est que des questions. Ça n'est que des questions. Et on. Au pire, du pire, du pire, même en supposant qu'on ne cherche pas à les orienter légèrement pour être suggestif, il y a plus qu'à souffler à peine dans le cou pour qu'il y ait une bascule vers l'hypnose, parce que de toute façon, il y aura eu le grand classique captation de l'attention, focalisation de l'attention, direction en interne et ratification à tour de bras. On va juste un peu orienter les questions, c'est pas du clean, hein, pourquoi ça serait important pour vous? Vraiment. Et pas juste pourquoi est-ce que ça serait important dans une acceptation sociale. Et pourtant, ça n'est que de l'écoute. On note, on répète, on reformule à peine, on résume de temps en temps. Et ça n'est que de l'écoute. Si je devais créer une formation idyllique avec aucun problème de temps ou d'argent, pour d'éventuels stagiaires, les faire commencer par de l'entretien motivationnel pour qu'ils s'habituent à écouter et entendre et ne pas se projeter et voir que comment on joue sur l'attention pour peut-être avec des systèmes de récompense, hein, parce que l'attention est quand même guidée en bonne partie par la récompense. C'est probablement par un truc comme ça que je ferais. Parce que il va y avoir l'écoute, il va y avoir la posture, etc. Ensuite, en leur disant, vous avez bien travaillé pendant une semaine, maintenant on va aller faire les clowns au parc pendant 3 jours à coller des pieds, des mains, pour que vous soyez bien sûr que, en plus d'être des thérapeutes, vous êtes des hypnos, ça me paraît très, très, très sensé aussi. Mais au lieu d'être hypnothérapeute, commencez à être thérapeute, parce que c'est le plus long, c'est le plus compliqué, c'est la base de tout. Et par contre, après, oui, on va aller déconner, mettre des boutons de fou rire. Vous avez
Mais
bien bossé. Allons faire des trucs fun.
du coup, ça m'amène à un parallèle. J'ai vu qu'il y avait en Russie, je crois que c'est en Russie qu'ils ont développé ça, des intelligences artificielles, enfin, une notamment qui s'appelle Replica, et qui a pour objectif d'être dans l'empathie extrême. C'est-à-dire que artificiellement, elle va poser des questions, elle va donner l'impression de s'intéresser à la personne, et il y a véritablement un lien qui se crée. C'est-à-dire que la personne qui se connecte à cette intelligence artificielle va avoir l'impression d'être écoutée comme jamais, et c'est une écoute qu'elle ne retrouve pas dans son quotidien, et elle va développer même des sentiments. Des fois, ça va jusqu'au sentiment amoureux carrément. Et je me posais la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un thérapeute humain et une intelligence artificielle qui serait dans l'empathie, en tout cas dans l'illusion d'une empathie parfaite, qui maintient la personne dans cette sensation d'être totalement écoutée, sans jugement, et qu'en plus l'intelligence artificielle se souvient de tous les détails de ce qu'elle lui a raconté, ce qui enlève les failles humaines de l'oubli.
Je pense sincèrement qu'ils sont basés sur Rogers et l'entretien motivationnel ou des trucs comme ça. En tant qu'opérateur, si tout était fait en texto, tu disparaîtrais complètement avec ces techniques. Dans la vraie vie, il y a en plus le non-verbal qui traduit le fait que oui, tu es attentif à ce qui est dit, tu réponds en fonction de ce qui est dit, tu te rappelles du truc qui a été dit 5 ou 10 minutes après, et ta propre attention est perceptible. Tu as tendance à regarder la personne, tu auras des micro-mouvements pour t'approcher d'elle un tout petit peu, tu auras des bribes de mou sur le visage qui apparaîtront. Je pense que une jolie pointure en entretien motivationnel ou un truc de chez Rogers arriverait au même truc. Ils ont pris le modèle quelque part. Le choix du type de questionnement tombe pas du ciel, tombe
Finalement,
pas là.
la plus-value humaine par rapport à une intelligence artificielle comme ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que toi, tu vas avoir une confiance et du coup, la personne va s'accaparer cette confiance pour elle-même, alors qu'il y a quand même une partie d'elle, je pense, lorsqu'elle a affaire à une intelligence artificielle, bah, ça ne lui renvoie pas cette confiance. Enfin, il y
Je
aura
pense qu'il
l'empathie, mais il n'y aura pas.
y a ça et le non-verbal qu'une IA pourra pas avoir. Je veux dire, si on revient au truc de Mehrabian sur le verbal, le non-verbal, le paraverbal, etc. Bon, les chiffres qu'il avait dans sa première étude, on voulait
Faux.
y aller parce que c'était dans un cadre très spécifique. Mais actuellement, quand ces études-là sont faites, c'est plus ou moins 50-50. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le doute, c'est le non-verbal qui prévaut. Ce que vous venez de me dire, vous ne me mentez pas parce que je le vois.
D'où l'importance de la congruence.
Oui. On va tourner probablement sur 3-4 piliers, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Il y a l'écoute, la congruence, l'empathie, la non-directivité. Je pense aussi la sécurité. Là, je suis en train de me retaper. De temps en temps, je refais des lectures parce que je me dis, il faudrait quand même que tu ailles mettre le nez. Je suis en train de me retaper un des bouquins de Shapiro de l'EMDR que j'avais lu il y a longtemps et que j'avais probablement survolé il y a longtemps, malgré beaucoup de coups de Stabilo-Boss dedans. Et c'est incroyable dans la première partie du bouquin le nombre de fois où Shapiro explique il faut que la personne avec qui vous travaillez soit dans un système collaboratif, faut qu'elle ait confiance en vous, faut que elle conserve la notion de contrôle qui lui soit accordée, faut qu'elle soit capable de sortir de la séance à volonté si elle vous le demande, que vous arrêtiez tout, faut avant avoir mis en place un lieu sécur pour qu'elle se sente protégée, etc. Et si elle vous dit là ça va pas, ou si vous percevez que là ça va trop loin, vous arrêtez tout, vous faites une pause, vous posez des questions, etc. Donc c'est pas cette histoire de posture d'écoute n'est pas limitée à un type de pratique. C'est important. Le MDR, voilà, on se
D'ailleurs,
dit
y a rien de
c'est
pire que ça, hein, de faire de l'EMDR sans tout ça, quoi. Faire de l'EMDR mécaniquement qu'avec les mouvements et les questions et les 9 étapes, là, sans avoir créé le lien, sans avoir créé la sécurité, sans avoir créé la confiance, c'est terrible. C'est-à-dire que moi, je récupère des gens qui sortent de là, avec des praticiens que je nommerai pas, qui sont retraumatisés. Mais pire qu'avant.
parce qu'il y a eu une exposition à ce qui était bien sous le gros caillou et qui n'a
Oui.
pas été cadré. Il n'y a pas eu ce rôle de
Et
garde-fou, sens littéral du terme.
je trouve ça fou, en plus des gens qui sont formés par la filière officielle
Ah, si c'est la filière officielle, c'est franchement grave.
Et c'est ce que je trouve vraiment très grave là-dedans. Donc c'est vrai que ce qu'on dit là, c'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire, t'as raison de parler de sécurité, parce que tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est ce qui va la créer, cette sécurité, ce qui va créer par notamment le non-verbal et tout ce qu'on a dit avant, une vraie possibilité de travailler en sécurité pour la personne, et puis même une possibilité de travailler tout court, parce que là commence à se jouer vraiment les choses dont on a besoin, quoi. Mais faire des choses mécaniques, uniquement techniques, et l'EMDR en particulier, pour moi, c'est destructeur, quoi. C'est impressionnant à quel point ça marche presque à l'envers parfois, quoi.
Tu as une réexposition avec un rituel qui est supposé être dissociatif, réadaptatif, mais S'il y a personne, entre guillemets, s'il y a personne au bout du doigt,
Exactement. Exactement.
Manu, on t'entend pas.
Là, on n'a pas le son.
Oui, c'est bon. Je vais citer Kevin Finnell pour résumer un peu tout ça. Le rôle du thérapeute, c'est de déstabiliser et de sécuriser. Et est-ce que la qualité de l'écoute peut avoir une influence sur le rapport hypnotique? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'imprègne pas aussi d'une sorte de rythme biologique, de synchronisation plus profonde que ce qu'on comprend? Ou ça va trop loin?
Moi, j'ai une réponse, mais je fais
Je
que
ne sais pas
parler.
si c'est très clair, ma question, mais.
Enfin, pour moi, ça l'est. J'ai une réponse, mais je fais que parler. Alors, je vais laisser mes petits camarades quand même intervenir.
Moi, je pense que, alors, c'est une façon d'emmener quelqu'un en transe, c'est de rentrer dans la sienne. Ce qui va faire un débat avec Philippe qui dit qu'il n'y va pas, mais moi, je pense qu'il y va. Mais effectivement, ça se. Si... Enfin, je l'ai vu plein de fois, je l'ai vu notamment, par exemple, je vais donner un exemple. J'avais un petit garçon, parce que je travaillais avec les enfants à partir de 5 ans, donc le plus petit, 5 ans, hein, qui était dans son grand fauteuil à côté de moi. Et comme il avait peur, le petit garçon, tout seul avec moi, évidemment, il y avait les parents qui étaient dans le canapé en face et qui voyaient ce qu'on était en train de faire, parce que on était côte à côte. Et puis, ben, ça se passait bien. On a réussi à trouver, à jouer, à trouver de la confiance, à s'amuser, à se détendre, à trouver du relâchement. Et petit à petit, les yeux se ferment naturellement et ils rentrent dans une transe profonde, le petit garçon, mais vraiment super détendu, agréable, etc. Il continue à m'entendre et tout ça. Le père, qui était dans le canapé en face, commence à piquer du nez, à tomber, et rentre dans une transe hyper profonde. Sa femme à côté était morte de rire. Elle voyait tout le monde descendre, comme ça, tout le monde tombait progressivement. Donc, je pense qu'effectivement, cette empathie, alors en plus entre un papa et son fils, quoi, il y a forcément une empathie très forte, quoi, fait que je pense que c'est très difficile de résister à quelqu'un comme ça, avec qui on est dans une relation empathique forte, qui rentre lui-même dans sa propre transe. Et je pense que c'est un moyen de mettre les gens en transe vraiment. Je sais
D'être un
pas
peu
si ça.
fasciné par la personne, quoi.
Ouais, parce que. Après, ça dépend comment chacun travaille, mais pour moi, c'est assez facile de rentrer dans des transes éveillées, quoi. De commencer à rentrer dans quelque chose où je passe en automatique, etc. Et c'est pas moi qui hypnotise, hein, c'est une part de moi que je laisse faire. Et quand je rentre dans ces états-là, souvent, bah, je vois que ça amène les gens à y aller tout seul, quoi. Je pense pas que ce soit la seule façon de travailler. Bon, ça répond à la question ou t'es en transe?
Un peu, un peu, un peu les deux, un peu les deux. Je sais pas, je dois réfléchir aux prochaines questions. Pourquoi on apprend alors dans nos pratiques, pourquoi on apprend toutes ces choses sur la théorie des uns et des autres, toute la diversité théorique qui existe, pourquoi on apprend la PNL, l'analyse transactionnelle, s'il suffit d'écouter? Parce que Bah, il semblerait qu'on ait besoin de se laver un peu le cerveau avant d'arriver en séance d'hypnose, d'être dépourvu de savoir, d'intention, de projection.
Moi,
Pourquoi
je crois
on apprend
pas.
quelque chose alors? Non?
Moi, je crois pas. Je pense plutôt qu'on est farci de savoir et de connaissances et de repères plus que de techniques.
De
C'est pour ça
repères.
que j'aime bien Rogers parce qu'il parle d'approche. Il parle pas de méthode. Et on a plein de repères, on a tout ça en tête. Sauf que si c'est vraiment intégré, ça devient juste inconscient. Donc, on n'a pas besoin de s'encombrer l'esprit avec ça. Et justement, on doit libérer tout le reste parce que on a vraiment internaliser le reste, quoi. C'est tous les apprentissages. Au début, c'est consciemment qu'on fait les choses, et puis petit à petit, à force de répétition, elles deviennent inconscientes, quoi. Donc non, non, je pense que tout ça est utile, plus ou moins. Après, on peut faire le tri dans tout ce que tu as dit, mais toutes les techniques, elles sont importantes. Et puis, il faut faire ses gammes. Et après, je sais pas, quand tu joues de la guitare, tu penses pas à tes doigts, quoi.
Bah, quand j'y pense, c'est nul, quoi.
C'est mort. Voilà.
On a
Ouais.
besoin que les gens nous écoutent quand on les hypnotise, quand on leur parle. Est-ce que c'est la même chose? T'as rien, Eric,
C'est-à-dire.
t'as rigolé, je t'ai vu.
Vas-y. Non, moi, Ah, ben,
Vas-y.
vas-y, alors. Valérie, c'est à toi.
Ouais, prends la parole.
du coup, je me suis perdue dans ce qu'on disait. Oui, c'est ta question qui m'a fait rire, en fait. La manière dont tu l'as amenée, je te reconnais bien là. J'ai l'impression que la manière dont le client nous écoute, bah, c'est pas, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que ce qu'il écoute, c'est notre posture, mais pas nous.
Les mots n'ont pas d'importance alors?
Si, justement, les mots qu'on va choisir, alors, ça me rappelle un peu ce que tu disais par rapport à la manière dont tu te positionnes. Toi, quand c'est quelque chose de négatif, tu écoutes dans un sens. Je ne sais plus dans quel cadre tu parlais de ça. Des choses que tu as travaillées et que maintenant tu fais inconsciemment. Donc en fait, justement, je crois que nos mots ont beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que notre écoute doit être active et renvoyée à la personne en face ce qu'elle attend. Mais quand je dis qu'elle ne nous écoute pas nous, c'est-à-dire qu'elle n'écoute pas notre personne, elle écoute notre rôle de sachant. Et du coup, notre parole a encore plus de poids. Bon, j'ai encore fait des paroles énigmatiques.
Non,
Ok.
j'attendais la suite.
Moi, je peux parler de est-ce que ce qu'on dit est important, est-ce qu'il faut que les gens nous écoutent, parce que je travaille avec des sourds et muets. Donc, comme je travaille avec des sourds et muets, là, on est dans autre chose, quoi.
Ah, je suis contente que tu parles de ça. C'est vraiment un sujet qui me pose question parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans les techniques à base de paroles. Et enfin, moi, personnellement, je n'ai aucune notion de comment on peut mettre quelqu'un en hypnose autrement que en lui parlant. Donc, je suis curieuse de voir ce que tu vas développer.
Est-ce
Bah,
que
en
tu
fait,
signes, Franck?
non, non, non. Je dis bonjour et merci, mais non, non, mais pas du tout, pas du tout. Je fais tout ce qu'on a dit avant sans les mots, quoi, en fait. Donc, je travaille ma congruence, je travaille l'accueil positif inconditionnel, je travaille la compréhension empathique, ça c'est sûr. Déjà en essayant moi d'être dans la bonne posture. Après, on écrit un peu au début pour préciser la demande, hein. Tout à l'heure on parlait de détermination d'objectifs, bon, faut savoir quand même sur quoi on travaille. Puis surtout pour mettre en tête quelque chose à la personne pour qu'elle soit connectée au sujet, hein, ça c'est sûr, à sa problématique. Donc surtout en référence interne, j'essaie d'avoir quelques détails sur ce qu'elle ressent. J'aime bien évidemment des choses très concrètes au niveau du corps quand on peut avoir des informations là-dessus. Et après, ce que je fais, c'est avec le corps et avec l'attention, énormément. Donc, on peut faire des choses avec des gestes. Par exemple, leur demander d'ouvrir ou de fermer les yeux, je fais sur l'épaule comme ça, je fais un repère. Je dis si je fais ça, vous fermez les yeux. Si je fais ça, vous ouvrez les yeux. Tu vois, par exemple. Là, je leur écris ouvrir les yeux, fermer les yeux. Je leur montre, etc. Je peux faire des gestes pour la respiration. Inspirer, expirer, etc. Et avec des accompagnements comme ça, petit à petit, avec du tapping, avec du balayage oculaire comme en EMDR, en fait, j'arrive à les amener dans des transes. Et en fait, je rentre déjà moi dans la mienne vraiment. Alors avec eux, c'est encore plus facile. Il n'y a pas de mots qui perturbent, etc. Hein. Et puis, je leur demande de penser à leurs problèmes. Je leur demande de ce qu'on a écrit sur le papier avant. Je leur dis d'y penser comme ça. Et puis après, je commence le tapping pendant qu'ils y pensent. Après, je leur fais ouvrir, fermer les yeux. Après, je passe derrière eux. Des fois, j'appuie sur les épaules, sur l'expiration pour les faire descendre. Quand je vois qu'il y a des tensions, je vois bien les petites tensions dans le cou, tout ça. Je commence à bouger un petit peu la tête, à la faire descendre, à faire quelques points. Puis après, ça devient complètement, je sais pas comment dire, instinctif. Donc, je fais tomber des bras comme dans la Hellman. Je fais tout un tas de choses comme ça. Beaucoup, beaucoup de tapping, surtout quand je vois que ça commence à bouger au niveau de la respiration, les émotions avec la respiration, tu les vois passer, quoi. T'as des turbulences parfois. Ça devient asynchrone, ça devient plus profond, etc. Ce qui oriente mes vitesses de tapping, et en fait, c'est tout dans l'instinct. En fait, c'est un truc qui devient animal à un moment donné, pratiquement, quoi. Et là, je suis vraiment complètement en transe. Et ce qui est dingue, c'est que ça me fait des transes, mais profondes comme jamais, quoi. En plus, je pense que eux, ils ont quelque chose de particulier, c'est que ils développent une attention différente puisqu'il leur manque des sens. Donc, le reste est encore plus développé. Donc, ils ont une capacité de focalisation qui est déjà là, qui est déjà très importante. Vu qu'en plus, on a une difficulté de communication, bah, l'attention, elle est encore un peu plus grande et ça devient un outil qui facilite encore un peu plus la transe. Et vraiment, je travaille complètement en aveugle. On ne détaille pas les problématiques. On n'a pas de stratégie, etc. On est connecté au problème et on rentre dans le corps et on le fait bosser dans le corps. En gros, c'est ça, mon approche.
Moi, j'ai l'impression d'une écoute ultime, là. Enfin, quand je t'entends
C'est ça.
parler, pour moi, là, on est vraiment dans une écoute, mais pure.
C'est ça. Mais c'est assez phénoménal parce que c'est un vrai défi, hein, parce que quand on parle de congruence, moi au début, j'avais la trouille, quoi, de faire ça. Et je l'ai fait, ouais, petit à petit. On a co-construit ensemble avec des gens qui étaient vraiment bienveillants, sympathiques pour m'aider même à les accompagner, quoi. Donc ça s'est co-construit et c'est ça qui est intéressant. Là, il y a une vraie relation. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, on trouve des transes vraiment au sens hypnotique de transes incroyable avec des gens comme ça. À tel point que j'ai eu quelques très bons résultats qui m'ont fait dire, mais pourquoi je fais pas ça avec les gens qui sont pas sourds et muets, quoi? Pourquoi
Tu
je m'embête?
le fais alors ou pas?
Alors, ça m'est arrivé, effectivement, ça m'est arrivé quelquefois sur des sujets où je patinais vraiment, trop conscient et tout ça. Je leur dis, maintenant, on dit plus rien et on va faire autre chose. Et avec des résultats pas mal aussi. Mais je me suis vraiment dit à un moment donné, puisqu'on parlait, est-ce que c'est intéressant les mots, les paroles et tout ça? Pas toujours. Alors je pense que c'est pas pour tout, qu'il faut bien sûr adapter. Et puis aussi, il faut être un peu poli avec le conscient, quoi. Bon, déjà moi, ma maman m'a élevé comme ça, mais il faut être poli avec le conscient. C'est-à-dire qu'il faut aussi obtenir une collaboration qui va passer d'abord par un travail conscient avec des mots, de la compréhension et tout ça pour construire de la confiance. Mais je dirais maintenant, dès que je peux m'extirper de ça pour que ça travaille à un autre niveau, on va plus vite, quoi. Souvent, on va plus vite. Bon, c'est pas toujours possible, pas aussi simple avec tout le monde. Les perceurs sourds et muettes, c'est encore autre chose, parce qu'il y a déjà une attention différente. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à faire. Je vous conseille, si vous voulez essayer à votre façon, que je pense que c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que la façon que j'ai de le faire, je pense que ça conviendra pas à quelqu'un qui est différent, quoi, qui le sent pas comme ça, quoi. Mais justement, puisqu'on parlait de congruence, là, t'es obligé d'être dedans. Donc, comme t'es obligé d'être dedans, t'es obligé de faire à ta façon, quoi.
Travailler
Bon.
plutôt l'hypnose silencieuse
Ouais.
pour développer une pratique plus profonde de l'hypnose. Est-ce que ça veut dire que l'entretien préalable serait un temps plus social que stratégique?
Parfois, oui.
Je
Ça
pense
dépend.
qu'il y a des deux.
Parfois non, alors.
Vas-y,
Oui.
Philippe.
Pour moi, c'est en même temps. Je vais avoir un moment où la personne pense que rien n'a commencé, etc. Donc, je vais créer de la relation, de la proximité, et en même temps, je vais délivrer des litres de suggestions sur ce qui va se passer après. C'est mon interprétation, hein, donc elle m'arrange. Pour en gros insérer un scénario parmi les milliers de scénarios qui sont développés en parallèle. De façon à ce qu'à un moment, quand certaines choses se passent, ça soit l'équivalent d'une prophétie qui a été annoncée qui se réalise.
Faire de
Mais
l'amorçage, quoi. Ouais.
je veux
Et
dire,
c'est quoi de l'amorçage?
l'amorçage, c'est dire à un moment, vous avez un doigt qui va faire ça et vous allez parler à votre main. Voilà. Et je vais raconter des trucs, etc. Et puis le doigt va faire ça. Voilà. Ça devient compliqué si la première prophétie se réalise, que les autres se réalisent pas. Et puis bon, si vraiment tu veux finir la bestiole, tu dis d'ailleurs, elle va se mettre à tourner, vous allez parler avec vous. Alors que si tu reçois les patients directement, leur dire, on va faire une séance où vous allez parler avec votre main, en général, ça va pas se négocier aussi facilement. Mais tout ça, il faut être très explicatif, donner l'impression qu'on explique tout. Leur donner une impression de contrôle, Vous allez tout voir, vous allez tout entendre, vous vous rappellerez tout. Si vous voulez arrêter, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en fait,
Alors
ça va être
ça.
une partie de vous qui va travailler et pas moi qui vais décider de ce qui se passera. Moi, je vais juste vous conduire par moment, c'est à peu près tout. Mais on est toujours dans les mêmes trucs. Vous aurez le contrôle, ça va être collaboratif. Il n'est pas du tout obligatoire que je sache ce qui se passe. C'est les mêmes trucs qui reviennent tout le temps. Avec comme idée de base, c'est il y a des gens qui vont être moins susceptibles que d'autres, et il y a des gens qui vont avoir des gros dossiers, et peut-être qu'ils ne sont pas au courant qu'il va y avoir un gros dossier. Donc, les 15 premières minutes permettent d'encadrer tout ça. J'ai pas forcément besoin de savoir ce qui se passe. Vous pouvez avoir confiance en moi. Donc, vous pouvez être dans un cadre où si les gros dossiers arrivent, vous êtes OK pour les traiter. Et si vous voulez pas les traiter au milieu de la séance, faire une œuf, c'est vous le patron. Mais tout ça, on le sait pas avant. On peut tomber sur un super sujet qui a, je veux arrêter de me ronger les ongles, parce que c'est une habitude qui tourne à vide. Et là, c'est réglé en 15 minutes éventuellement. Par contre, des fois, c'est d'autres choses. Et ça, comme on ne le sait pas avant, ben, on va préparer tout ça pour tout le monde, en grande partie de la même façon. Et donc, il y a besoin d'un minimum d'approche sociale, hein. La politesse, c'est un mode de communication établi sur des millions d'années, sous une forme ou sous une autre, pour que deux personnes se rapprochent, avec des codes qui disent, je suis pas dangereux, je suis même plutôt gentil, on peut s'entraider, blablabla. Mais faire tout ça poliment, gentiment, n'empêche pas de délivrer des kilos de suggestions sur ce qui pourrait se passer après. Pour autant que la personne capte, ça va être collaboratif, je reste au contrôle, je peux arrêter quand je veux. Après, c'est avec le style de chaque personne, avec la façon de mélanger la tambouille, ça s'entend plus. On a juste l'impression de quelqu'un qui vous reçoit, qui vous dit des trucs. Enfin, vous êtes deux à m'avoir vu en formation. Moins il y a de discours hypno dans les 15 premières minutes, mieux tout le monde se porte. Après,
De
effectivement.
repousser le moment de faire de l'hypnose,
Non,
rend
non,
l'hypnose plus difficile.
non, c'est pas de le repousser. C'est
Non?
moins on se rend compte qu'il y a des phrases d'hypno gravées dans le marbre, là, bang, bang, bang. C'est comme quand vous conduisez pas une voiture ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Plus
Bah,
on est dans
il
un
faudrait
discours
pas
naturel.
répondre, il faudrait pas répondre aux questions qui sont pas posées en fait en séance. On gagnerait beaucoup de temps, non?
Moi, j'en pose certaines, mais c'est pas que je me fous de la réponse. La plupart des questions qu'on pose avant, les gens savent pas, donc j'entends bien ce qu'ils disent. Si je me demande est-ce que vous avez déjà été hypnotisé, qu'ils me disent chez Mesmer ou non, ce que je vais faire après, moi, va varier. C'est sûr que si ils sont montés sur scène avec Mesmer,
Ce que
y a
tu
des
voulais
choses
dire,
qui vont aller
Manu,
plus
toi,
vite,
c'était
hein.
plus nous ne pas anticiper des questions qui n'ont pas été posées, c'est ça? J'ai Oui,
plutôt
c'est ça.
compris comme ça ta
C'est
question.
ça.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire. Et est-ce que des méthodes comme le métamodèle, enfin qui ne sont pas vraiment des méthodes, mais le principe de questionner en précision, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Je suis stressé, qu'est-ce que ça veut dire? Les omissions, les généralisations, les distorsions, est-ce que ça vous paraît pertinent comme façon de faire ça?
Le systématiser. Là, malheureusement, ça va être quand même pour partie le sujet qui va te répondre. Faut pas trop me pousser là-dessus, parce que j'ai l'impression que l'opéra, ça me donnerait personnellement, de façon totalement subjective, l'impression que l'opérateur ne s'intéresse pas effectivement à moi, mais à ma problématique. Pas bon. Suivant comment il s'y prend, il va me poser des questions que je vais considérer comme inutiles et que je perds mon temps. Pas bon. Le métamodèle est intéressant, mais suivant comment elle est utilisée, tu as l'impression de discuter avec un gosse de 4 ans qui joue au magicien. Voilà.
Moi, je
Il y a
pense
des
que
notes.
ça doit servir à mieux se comprendre. Il faut que l'idée, ça soit mieux se comprendre, pas manipuler ou que l'autre ait la sensation d'être manipulé ou quelque chose comme ça. Mais pour au moins bah, créer une relation qui soit meilleure, parfois le métamodèle donne des indications, parce que des fois on est à côté de la plaque et parce qu'on n'a pas bien compris ou parce que la personne lui permet de préciser son propos et donc de se sentir être mieux comprise. Si c'est pour ça, à mon avis, ça peut être utile.
Je pourrais pas dire mieux que Franck. Il y a ponctuellement, c'est non seulement utile mais important, mais ponctuellement, de façon mécanique. Mais je suis pas hein, forcément un sujet facile. Donc
Y
ma réponse
a-t-il
est
des sujets
empreinte d'une
faciles?
subjective. Il y
Bah,
en a plus.
ça m'amène une idée peut-être à développer qui va bien avec notre sujet de départ, c'est le besoin d'être compris. Parce que si on veut créer de la confiance, il y a un énorme besoin général de tout le monde, hein, et qu'on a tous besoin d'être compris. Ce besoin-là, il est important parce que personne ne comprend. C'est un peu le problème, c'est qu'on a besoin d'être compris, mais personne ne comprend vraiment. Et pourquoi? Parce que c'est impossible, puisqu'on n'est jamais à la place complètement de quelqu'un. On ne sait pas ce que vit l'autre. Et d'ailleurs, c'est une limitation dont on doit être bien conscient, nous, en tant qu'accompagnants. On ne pourra jamais savoir vraiment ce que vit l'autre. On pourra faire des projections, plus ou moins justes, peut-être. Mais ce qui est intéressant, ça aussi, c'est que la personne qui va venir va avoir ce besoin d'être compris. Moi, ça m'arrive de leur dire carrément que je sais que je ne peux pas comprendre ce qu'ils vivent, qui déjà enlève une espèce de truc, parce qu'il y a tellement de gens qui leur disent ce qu'ils vivent et comment ils devraient faire, etc., qu'à un moment donné, avoir quelqu'un qui est censé savoir te dit ça te fait un truc. Mais par contre, que je veux, c'est qu'ils ressentent qu'on ait au moins l'envie sincère d'essayer de les comprendre. Et ça, c'est suffisant pour répondre aux besoins d'être compris. L'envie sincère de quelqu'un d'essayer de nous comprendre. Et moi, j'essaie toujours de développer ça, d'une façon, de l'obtenir d'une façon ou d'une autre, c'est que la personne ressente ça. Et les mots, ils sont importants, sincères, et tout ça. D'essayer de comprendre l'autre au mieux, tout en sachant que j'en connais la limite de cet exercice, et que donc je vais pas supposer ce qu'ils vivent, je vais pas sous-estimer, je vais pas juger, mais que j'ai l'envie sincère d'essayer de l'accueillir au mieux, quoi. Je sais pas si ça vous paraît important, ça, de l'avoir en repère, en tout cas, pour travailler.
Fondamentale en fait.
Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Pour moi, c'est bien plus important de montrer que tu es vraiment dans une véritable écoute, que tu as vraiment besoin de comprendre et que tu n'hésites pas même à poser des questions plutôt que d'imposer bah, je vous comprends, qui peut sembler artificiel et puis qui est justement, tu veux fermer le dialogue, tu dis je comprends.
Si on veut
Si
aller plus loin, pour moi,
j'ai
c'est
pas
même.
ça, l'opérateur me perd, moi.
Ouais, moi je pense même que c'est comment dire, c'est faire le contraire de ça, c'est être violent. C'est même ce qu'on fait parfois à des enfants, souvent, qui crée énormément de problèmes chez les gens. Parce que y a des enfants, par exemple, qui vivent un truc qui a pas l'air grave, quoi. Pour un adulte, c'est anecdotique, quoi. Et puis, en fait, pour l'enfant, c'est la fin du monde, quoi. Tu perds ton doudou, le monde s'écroule. C'est terrible, en fait. Mais en fait, ce qu'on va leur dire, si on leur dit c'est pas grave, et si on le dit assez fort, avec une autorité, ce qui va se passer, c'est que ils risquent, en fait, de nier sa propre expérience, de vouloir jouer une émotion qui n'est pas celle qu'il vit, si ça va très très loin et si c'est répété. Ça coupe les gens d'eux-mêmes. Ça les coupe d'eux-mêmes, en fait. Qui est
Ça, tu
une
peux
source.
l'avoir que
Comment?
s'il n'y a pas d'empathie.
Comment?
Peux avoir ça que s'il n'y a pas d'empathie.
Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que l'empathie, après, ça fait que les gens sont coupés d'eux-mêmes. Et ça crée d'énormes tensions entre ce qu'ils essaient d'être, de faire, de réaliser, et bah, qui serait si ils étaient reliés vraiment à ce qu'ils ressentent, en fait. Même parfois, ils en ont peur, parce que là-dedans, il y a des trucs terribles, etc. Je pense que c'est des sources énormes de problématiques qu'on reçoit. Et dans l'accompagnement, dans l'écoute qu'on évoque là, pour moi, il y a retrouver un moyen d'augmenter pour chacun sa sensibilité à lui-même. Ce qui est très difficile parfois parce que c'est souvent vécu comme une faiblesse, comme aussi quelque chose de souffrant, de difficile, etc. Et tout ce qu'on fait là, avec la congruence, on montre l'exemple que c'est possible. Il y a une espèce d'exemplarité là-dedans, pour moi. Pareil, l'accueil positif inconditionnel, c'est tout ce qui se joue en nous, il n'est pas à ni à évacuer, il n'y a pas à s'en dissocier, c'est utile, intéressant, ça peut, c'est possible de travailler avec, il y a des ressources pour le vivre, etc. Donc pour moi, tout ça ramène à cette espèce de je relie la personne à elle-même un peu plus, un peu mieux, et sur une sensibilité plus grande pour qu'on puisse travailler avec ce qui est et pas avec ce qu'on voudrait, avec quelque chose de mental. Donc pour revenir aussi au développement personnel et aux déterminations d'objectifs, hein, les déterminations d'objectifs, on se risque là et de ne pas considérer ça. C'est de couper encore un peu plus les gens d'eux-mêmes et de partir pas de là où ils en sont, mais de s'intéresser que de là où ils veulent aller, mais il n'y a pas les fondations pour y arriver tant qu'on n'a pas réussi
De
déjà à
ce
se
qu'il
relier.
croit être, etc. On va continuer dans les. Ça tombe bien que je lise beaucoup en vacances. Toujours dans le Shapiro et toujours Rogers. Rogers dit que si on n'arrive pas à installer un rapport où le sujet est sincère avec lui-même, c'est-à-dire qu'il cherche pas à renvoyer l'image de Monsieur Parfait ou Madame Connasse ou Dieu sait quoi, ça, peu importe. Si le sujet ne se connaît pas, il n'est pas capable de changer.
Exactement.
Pour ça, une partie de notre job, c'est de créer un cas où le sujet s'autorise à être sincère avec lui-même. Et c'est là où il y a l'énorme différence entre la thérapie et la conversation, je vais exagérer un peu, de bistrot avec des potes, où on cherche à se faire ou plaindre ou aimer. Et avec le thérapeute, il faut que quelque chose transparaisse comme quoi les cracks que tu me racontes ne vont pas être utiles. Tu perds ton temps, tu perds le mien.
Et ce que je fais souvent aussi, c'est de, comment dire, de leur dire que c'est aussi du courage de le faire. Et en fait, je leur donne des bons points. Mais c'est pas des louanges parce qu'il faut pas aller trop loin quand même. Mais il faut quand même féliciter, je pense, quand on voit que ça remue et que les gens ils y vont.
That's
Et
right.
ça fait énormément bien parce que tu peux les encourager à se rendre compte qu'ils peuvent y aller, quoi. Et qui sont dans la bonne direction en faisant ça. Et dès que ça remue, moi j'aime bien féliciter, c'est bien, vous y êtes allé, quoi. Ça aide énormément à aller vers ça. Et en plus, ça crée de la transe, parce que c'est bon, de la référence interne à mort, et on va plonger dedans, quoi.
Et puis, c'est ne pas être seul au milieu de ce champ de mine.
Exactement.
On a été vu, on a été vu, on a
Ouais.
été suivi, on a été entendu. La difficulté de ce moment-là est perçue, acceptée, admise, valorisée. C'est dur de changer.
Je ne sais pas si les gens veulent forcément changer quand ils viennent nous voir. Peut-être plus faire une pause parfois, enfin pas changer qui ils sont. Souvent d'être écouté, la douleur morale, elle persiste, mais elle est différente. Est-ce qu'il n'y a pas une
Tout
recherche
dépend.
de performance dans ces histoires de détermination d'objectifs, de changement, etc.?
Je sais pas, moi je m'en fous un peu de ce que nous on pense avant, après, en tant qu'opérateur. Si pour le sujet, la représentation de la problématique est identitaire, il faudra qu'il change. Si elle l'est pas, je vois pas pourquoi il changerait. Il va déplacer un module, mais il sera le même, mais différemment.
Le problème, c'est qu'il peut y avoir une dissonance là-dedans. C'est que la personne ne veut pas changer d'identité parce qu'elle veut rester elle-même, mais le problème est identitaire. Alors quand c'est comme ça, Là,
Eh
c'est
ben, tu
chaud.
te tapes 3 ans de psychanalyse pour arriver au
Ah.
bout.
Il faut l'amener là où il veut surtout pas aller parce qu'il pense que s'il y va, tout est foutu, tout est mort. Et c'est là qu'il y a tout ce qu'il faut pour être bien, évidemment. Comme d'habitude, c'est toujours très paradoxal. Mais c'est-à-dire que là, il y a un courage, il y a effectivement de je saute dans le vide, quoi. J'y vais.
C'est pour
Et
ça
c'est
que je pensais sur ce caractère où l'autre est vraiment à nos côtés à ce moment-là, c'est quand c'est identitaire. Ouais, le gouffre est sous nos pieds. Et si tout ça existe parce que je suis martien avec des cornes, des rayures, et si pour m'en sortir, il faut que j'ai des rayures. Tout le monde va voir mes rayures.
moi, c'est ça qui m'intéresse hein, dans ce qu'on fait. Hein. Parce que j'adore faire souffrir les gens, c'est pour ça.
Pour te connaître, je le savais depuis longtemps. Le maître de cérémonie en pense quoi?
Pensif. J'écoute le silence. Non, j'en suis pas au stade d'en penser quelque chose. Après, en général, j'ai l'amnésie post-interview. Et je dois tout réécouter pour savoir ce qui s'est dit. Ce que j'en pense, c'est que on a bien travaillé. C'est un sujet qui, moi, me tient à cœur dans la pratique. Et je pense que c'est très, très dur d'arriver à une qualité d'écoute qui soit vraiment thérapeutique. Je pense que l'écoute en elle-même a des vertus et ça coûte rien, en fait, à part beaucoup d'énergie.
C'est
En
ce
tout
que
cas, moi,
j'allais
c'est
dire,
mon
ouais,
cas.
ça coûte de l'énergie quand
Mais
même.
je sais pas, tu donnes une pièce à quelqu'un dans la rue, s'il y a le regard et le sourire qui va avec, bah tu t'as même plus besoin de donner la pièce, quoi. Voilà. Donc l'attention, je pense qu'offrir de l'attention, comme tu l'as dit, Franck, c'est vraiment à ça qu'on doit s'accrocher quand on sait pas où aller dans l'hypnose, parce que les situations sont extrêmement complexes par rapport au temps dont on dispose pour faire quelque chose. Ça commence toujours par la personne. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, les mots de la fin, si vous voulez bien.
Alors, il faudrait que je farfouille dans un gros polycopie-là, parce que j'arrive pas à me rappeler qui a dit ça, et je pense pas que ce soit Watkins, mais quelque chose comme quand vous ne savez pas, travaillez à la relation.
Ah oui.
Et enfin, je sais pas, mais moi, il y a des fois où c'est poker face, mais derrière, c'est bon Dieu, mais je fais quoi maintenant?
Moi, si on était rogérien, on mettrait ça dans la séance. C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment aborder votre problème. Carrément, on le dirait, quoi. Et puis, il ne se passe jamais rien. Parce que s'il ne se passe rien, il se passe qu'il ne se passe rien. Donc, on peut noter ce silence.
Moi, je
Et le
pense qu'on
reste.
est crédible en disant que bah, je sais pas quoi vous dire, j'ai besoin de quelques instants pour enregistrer. Je pense pas que ça nous fasse perdre des points, ça.
Non, je c'est peut-être moi qui suis pas encore au niveau où il faudrait que je sois.
Non, non, ça nous arrive à tous. Enfin, moi, ça m'arrive comme toi, hein. Il y a des fois, évidemment, évidemment. Mais on voudrait que ce soit autrement. Hein. Et puis on sait comment il faudrait que ce soit autrement, etc. Mais si on est, voilà, on est juste humain, quoi. Et des fois, puis des fois, les gens nous racontent des choses quand même. C'est un peu quand même déstabilisant, quoi. C'est normal, quoi. C'est normal. Bon, il y a des gens vraiment qui accumulent tellement de difficultés, tellement de choses, tellement ils sont devant moi. Et je me dis, mais j'en serais où si j'avais vécu ça, quoi? Je sais pas, quoi. Donc c'est assez désarmant, quoi. Parce que tu te dis, peut-être moi j'aurais pas survécu, quoi. J'en serais pas là. Et c'est vrai que c'est bon, des fois il faut un temps pour reconnaître ça. Et puis même, on peut trouver des façons de l'exprimer. Il n'y a pas de raison, je pense. Surtout si c'est persistant, à un moment donné, comme dirait Rogers. Tout est
En
possible,
général,
hein.
il y a un truc qui pop. C'est peut-être à cause du silence ou qui est pas fort, sauf s'il est prescrit, mais n'est facile à gérer pour personne.
Des fois, je l'utilise un peu sournoisement, ce silence. Effectivement, je le prévois en amorçage en disant à un moment donné, je me tairai et
Je
l'inconscient
laisserai
travaillera.
cela à votre réflexion.
Pendant la transe. La transe, des fois, je fais un quart d'heure de silence hein, maintenant.
Tu fais
C'est
toujours beaucoup
profitable,
de
hein.
répit?
Comment?
Je fais
Les
toujours
gens
beaucoup de.
l'apprécient, ce temps de silence? Pardon, Philippe.
Non, 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 c'est
Ouais,
pas vrai.
souvent, si ça a
Les
été
gens
amorcé.
apprécient les temps de silence?
Ouais. Et c'est, ça approfondit, c'est terrible quand, si en plus tu l'as bien amené, si ça fait partie du travail, si, ouais, t'as prévenu ce qui allait se passer pendant ce silence, il se passe, tu sais pas ce qui se passe, mais en général, ça bouge, hein. Et puis tu sens un approfondissement et tu sens bah, dans la respiration, dans les mouvements idéomoteurs, il se passe plein de trucs, quoi. C'est pas toujours, je saurais pas donner la méthode, mais il y a des moments où je sens que c'est très approprié. Surtout si je les ai bien saturés avant. Parce qu'ils étaient complètement dans leur tête et que je les ai saturés un peu confusionnés. En préparant un silence, je sais pas si t'imagines, sur un moment t'en peux plus, quoi, et tu sais que tu vas avoir un silence et que là tu vas pouvoir enfin te poser, bah là ça approfondit, quoi.
Je me rappelle d'une séance que tu avais faite en Rossi, comme ça, où le sujet en était quasiment à se casser la gueule de sa chaise. J'ai la
Oui.
vidéo, je te la retrouverai si tu veux.
Je l'avais
Sur une
posté.
phobie du télésiège, non? Un truc
C'est
comme
ça.
ça. Ouais, c'est ça.
Si, c'est ça, c'était vertige.
Bon. Moi qui essayais
Ouais.
de marquer la séance. Oui, c'est ça.
En silence, tranquille, très peu de suggestions, une présence, un peu de voix
Par contre,
pour
ouais,
l'ambiance,
celle-là,
quoi. Ouais.
elle est intéressante, cette vidéo, si je la ressors, c'est que regardez l'attention que je porte au sujet. Parce que là, je me suis revu et je me suis dit, mais là, je suis en transe sur lui, quoi. Complètement.
Tu pourras la ressortir, la
Je
republier.
la retrouverai. Tu l'as, toi, ou pas? Bah, elle est, mais bon, vous l'avez tout le.
Moi,
Franck,
je
toi,
l'ai
tu l'as?
quelque part. Ouais, je l'ai, ouais. Je l'ai.
Bon,
Je
ben,
l'ai.
je vous
Parce
enverrai à vous
que.
deux alors. Parce que il n'y a pas d'autorisation. Je pense pas que le sujet se crisperait là-dessus, mais bon.
Si,
Je vous
il
enverrai
est
à deux.
d'accord. Il est d'accord, il est d'accord. Il est
Ouais, là,
d'accord,
tu
il me l'a
l'avais publié
dit une fois.
sur le groupe
Ouais.
il y a
Ouais, sur
3-4
le
ans, je
groupe.
sais plus. Ouais.
Non, parce qu'il m'a
Ça aurait été
renvoyé
plus
quand même.
classique.
Il m'a renvoyé 6 mois après une photo de lui sur un truc de 20 cm de large à 3 mètres de haut.
Bon, mais je
Génial.
farfouillerai, il
Génial.
faut que je le retrouve parce que là, je commence à voir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos.
Ouais, bah, si tu veux, je reposterai. Reposterai.
Okay.
Ça
Dirigeant.
fera. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Alors merci, merci à vous trois. C'était un
Merci,
plaisir.
Manu. Merci pour
Merci,
l'invitation.
merci les gens, mais vraiment merci, merci à vous. Et à bientôt.
Ça marche.